vont s'en mêler. Chacun choisit son camp. Strauss fils choisit bien sûr le côté des insurgés. Il ne descend pas dans la rue, mais il a ses armes. Sa révolution, il va la faire avec des notes. En pleine ébullition révolutionnaire, il apprend que son père, avec lequel il s'est un peu rabiboché, vient de composer et de faire jouer la marche de Radetzky, en réaction contre l'émeute. Vous savez cet air martial que scandent des milliers de mains lors du concert du Nouvel An chaque année? Si le public savait aujourd'hui, ce feldmaréchal autrichien a du sang sur les mains. Il s'est illustré en réprimant par la mitraille les révoltes populaires en Italie, à Brescia, Venise et Milan. Bref, c'est ce militaire à la poigne de fer qui fait toute l'admiration du monarchiste, Johann Strauss père. D'où cette marche qui est un acte de foi dans l'ordre, l'empire et la vigueur. Et un casus belli pour son fils. Loin d'être un poltron, le jeune Johann riposte avec une valse qui, elle, célèbre les barricades des insurgés. Et il attend la riposte de son père. Elle ne viendra pas. L'année suivante, en 1849, son père meurt d'une fièvre scarlatine dans le taudis de sa chère Émilie. On va le retrouver mort, complètement nu, dans le gourbi qu'a subtilement quitté la sensuelle maîtresse. Elle a tout emporté et a disparu à jamais. Triste fin de vie pour le Napoléon de la valse que tout Vienne conduira jusqu'à sa dernière demeure. Désormais, son fils a le champ libre. Les musiciens de l'orchestre de son père finissent par l'adopter comme chef. Mais la cour impériale lui reste fermée. C'est grâce à sa ténacité et à son talent de compositeur qu'il va gagner sa bataille. À son tour, il s'engage en vainqueur dans le tourbillon qui entraîne les valseurs viennois. Et on ne peut pas dire que les balles fassent défaut. C'est même une avalanche. Le public ne sait où s'étourdir. Chaque association, chaque profession a son propre bal, un véritable catalogue. On dénombre, entre autres, les bals des techniciens, des juristes, des comités bourgeois, des architectes, des cheminots, du comité des jeunes hommes, de la société de musique et même celui des pauvres, du premier arrondissement pour finir avec le bal des garçons de café. Et puis, il y a des rites. Bien sûr, les robes de bal et les habits de soirée, mais moins connus, les carnets de bal et les éventails à autographes en bois de poirier couverts d'inscriptions, de dédicaces, de portraits réalisés par les soupirants qui ont eu le bonheur de valser avec la propriétaire de cet objet. Toujours tel père, tel fils, Johann Strauss recherche partout la compagnie des femmes. Un rapport de police signale, et je cite, « sa vie amorale et dépensière ». Cela ne l'empêche pas, debout à son pupitre, de composer chaque jour. Parfois, il frise le burn-out et la dépression nerveuse. Mais devant les demandes accrues, il ne cesse de produire ce qu'on n'appelle pas encore des tubes, comme Trich-Trach Polka, Journaux du matin ou Accelerationen. Et justement, sa vie n'est qu'une accélération. Sa vie et sa carrière. Il tombe toujours amoureux, par exemple, d'une certaine Olga et de bien d'autres. Mais en 1862, il tente de se fixer et épouse une ancienne chanteuse d'opéra, Jetty Treves. Ce sera le premier de ses trois mariages. Toujours l'adage, tel père, tel fils. Il s'enrichit, achète bientôt une maison bourgeoise en bordure de la capitale, mais le vrai triomphe, il va l'acquérir d'une manière inattendue, 5 ans plus tard, le beau Danube bleu va bientôt couler dans sa ligne de vie, dans sa ligne de chance. Le beau Danube bleu va surgir au début de l'année 1867, sans tambour ni trompette, mais avec beaucoup de violons et, surprise, beaucoup de choristes. L'histoire de sa création va sûrement vous étonner. Nous sommes en 1867. Johann Strauss fils est désormais reconnu comme le roi de la valse. Quand il dirige avec son violon son propre orchestre, il accroche tous les cœurs. Ses valses, mais aussi ses polkas, quadrilles et marches, sont célèbres dans l'Europe entière. Mais il y a un domaine qu'il n'a pas encore exploré, celui de la voix humaine. Il n'est pas encore le compositeur d'opérette qu'il sera plus tard. Et c'est un hasard qui va le pousser à aborder le genre lyrique. Notre musicien, en effet, entretient depuis plusieurs années d'excellentes relations avec une célèbre société chorale masculine de Vienne. 200 chanteurs considérés comme les meilleurs de langue allemande. À leur programme, certes des chants populaires, humoristiques, satiriques, mais aussi du Schubert, du Schumann, du Berlioz, du Liszt et même du Wagner. Une référence. Leur concert de carnaval attire chaque année les foules. Mais en cette année 1867, son directeur hésite. Fêter le carnaval de février par une joyeuse soirée serait malvenu. Pourquoi ? Eh bien parce que le moral des Viennois est en berne. L'Autriche se relève difficilement de la défaite que l'armée prussienne lui a infligée à la bataille de Sadowa l'été précédent. Il serait de bon ton d'éviter une réjouissance trop festive qui ne respecterait pas l'ambiance morose généralisée. Dès lors, cette société chorale opte pour un Orphéon de carnaval, moins jovial, mais capable quand même de soutenir le moral du public. Et elle fait appel à Johann Strauss pour composer une valse, ou plutôt une série de valses qui s'enchaînent. Le compositeur est un peu pris au dépourvu. Il est assailli de concerts et de commandes. Mais qu'importe, quand on est le roi de la valse. Quelques semaines seulement avant l'événement, car ce sera un événement, il remet à la société un premier projet minimum, à savoir une œuvre pour quatre voix et piano écrite en hâte. Mais que vont chanter ces voix ? Strauss l'ignore. C'est alors que débute une suite rocambolesque qui est loin de prédire le triomphe mondial de l'illustrissime valse. La fameuse mélodie est très vite née sur la partition. Et cela pourrait s'arrêter là. Mais il faut des chœurs. Et que vont chanter les choristes ? C'est ce que Strauss demande à Johann Herbeck, le directeur de cette immense chorale. Il faut trouver des paroles. Herbeck en charge un de ses choristes qui taquine la muse. Oui, mais ce dernier est simplement employé aux écritures dans la police. C'est pas une lumière. D'autant que le bonhomme choisit d'écrire des vers de Mirliton pour célébrer les nouvelles lampes à arc électrique qui équipent depuis peu les réverbères de Vienne. Étrange alliage. Des vers ridicules et une musique des anges. L'œuvre sera en quatre parties. Strauss in extremis y ajoutera en dernière minute une cinquième. Le poète amateur se voit obligé d'écrire d'autres vers, cette fois sur la vie des paysans comptés avec humour et raillerie. Cela fera oublier les soucis de la vie aux Viennois, se dit-il. Et jusque-là, pas de titre, pas de Danube, même bleu. Oui, mais alors qui a trouvé ce titre au beau Danube bleu ? Le poète de quatre sous ou Strauss en personne ? On sait combien sa famille est liée au fleuve. Il sait que sa mélodie suggestive expose une vision grandiose du fleuve viennois. C'est donc probablement lui qui en a eu l'idée. Autre problème. Ce soir-là, Strauss a un autre engagement. Dès lors, c'est le comble, il n'est ni devant l'orchestre, ni même dans la salle. Un soir de première, qui plus est, celle de sa valse la plus mythique. Dommage. Car quand on fouille dans les archives du musée historique de Vienne, on découvre que ce soir du 15 février 1867, la salle était comble. 1200 spectateurs assis, des centaines debout. Sur le podium, 150 chanteurs ainsi que l'orchestre d'un régiment d'infanterie. Le concert durera 5 heures dans une salle surchauffée. Après une ouverture, des parodies chantées et une longue pause pour se rafraîchir au buffet, le public se rassied. Et pour la première fois au monde, l'orchestre déroule cette longue, belle et douce introduction qui annonce les 5 parties de cette valse. Certes, les spectateurs connaissent la musique de bal composée par Strauss, mais c'est un public quelque peu mélomane. Il comprend dès lors, ce soir-là, que ce n'est plus une musique à danser. Cette fois, l'œuvre qu'ils écoutent a une autre dimension. Contrairement à la légende colportée, ce soir-là, elle recueille un succès immédiat. On applaudit à tout rompre. On exige le bis. L'œuvre va devenir l'opus le plus connu de la littérature musicale. Le lendemain, les journalistes témoignent du triomphe pleinement mérité. « La valse est véritablement splendide », écrit l'un d'eux. « Elle est charmante avec ses doux rythmes caressants. Ce sera bientôt la pièce la plus populaire de ce compositeur prodigieux. » Celui qui écrit cet éloge a parfaitement compris. Ce concert du 15 février 1867 est une date dans l'histoire de la musique. Le lendemain, l'édition pour piano sort déjà à Vienne. La renommée de cette valse sera internationale. Et on va le voir, elle sera même mondiale. Le beau Danube bleu devient très vite un excellent produit d'exportation pour la capitale des Habsbourg. En cette même année 1867, il va même endosser un rôle diplomatique et historique. Comment la mélodie du beau Danube bleu va-t-elle faire son entrée dans le monde international de la diplomatie? Il faut savoir que le fils du chancelier Metternich est devenu ambassadeur d'Autriche à Paris. Face à la menace prussienne de Bismarck, il souhaite resserrer les liens entre Vienne et Paris. L'exposition universelle que prépare la ville Lumière serait une excellente occasion. Pourquoi ne pas utiliser la musique pour rapprocher les deux peuples? Une invitation est adressée à Johann Strauss, qui se réjouit de diriger son orchestre dans la capitale mondiale des arts. On décore de satin vert l'ambassade d'Autriche, rue de Grenelle. On fait venir le cuisinier du baron de Rothschild. Tout le gratin parisien est invité. Napoléon III et son épouse Eugénie paraissent. L'empereur accueille chaleureusement le roi de la valse. Toutes les nations du monde sont représentées dans la salle. Le 28 mai, Strauss monte sur scène. L'empereur lui a demandé une œuvre inédite. Quoi de plus simple que de commencer avec son beau Danube bleu? Il décide bien sûr de le débarrasser des paroles idiotes du poète policier. Et il se saisit de son violon, s'élève alors, dans un murmure de velours, les premiers accords qui finissent par dérouler leur thème si élégant. C'est cela le génie du compositeur viennois. L'élégance. L'assemblée est sous charme. L'Autriche gagne des points sur l'échiquier diplomatique. Strauss conquiert les invités. On lui demande de bisser, puis de trisser. Il va bientôt enchanter le public parisien. Tous les orchestres français mettent cette valse à leur programme. Parmi les invités se trouve le prince de Galles. Ce dernier prie Strauss de diriger 6 concerts à Covent Garden. Ce sera également un triomphe. Pendant ce temps, à Vienne, l'éditeur de Strauss ne sait plus où donner de la tête face aux commandes de la partition. Strauss se serait bien contenté de ce tourbillon de bravoure, mais le beau Danube bleu n'est pas encore au sommet de sa gloire, loin s'en faut. Cinq ans plus tard, en 1872, les organisateurs du Festival de la Paix l'invitent à Boston pour jouer ses « œuvres fameuses », comme dit le télégramme, lors d'un concert qu'ils annoncent exceptionnel. Quand les Américains parlent d'exceptionnel, c'est que ce sera grandiose. Mais Strauss est rétif. D'abord, il déteste les traversées en bateau. Oui, mais son épouse, Jetty, aimerait découvrir l'Amérique. Et vous le savez, ce que femme veut. Le voyant hésitant, les organisateurs américains connaissent l'argument imparable. Un cachet jamais vu, de 100 000 dollars. Plus ou moins 1 million d'euros aujourd'hui. Ça ne s'en fuse pas. Ce qui l'attend à Boston est sans commune mesure avec les triomphes européens. Quand il se présente à la première répétition, il est stupéfait. La tête lui tourne. Il serre la main de Jetty pour voir s'il ne rêve pas. Il a devant lui un orchestre de près de 2000 musiciens avec 600 violons, 100 altos, autant de violoncelles et de contrebasses, 24 flûtes, hautbois, trompettes et clarinettes et 12 timbales. Ce méga orchestre est accompagné, tenez-vous bien, de 20 000 chanteurs. Oui, mais comment diriger cette masse sonore ? Demande le compositeur viennois qui n'en croit pas ses yeux. On lui explique qu'il n'a qu'à se hisser sur un promontoire métallique prévu et qu'il sera observé de loin par des sous-chefs porteurs de jumelles qui transmettront ses mouvements et sa gestuelle aux exécutants. Quand débute le premier des 14 concerts, 100 000 Américains ont pris place dans un immense bâtiment en bois construit pour l'occasion. L'Amérique, ce jour-là, avait déjà l'esprit hollywoodien. Strauss, aux États-Unis, devient un héros. Ses concerts prennent une dimension spatiale qu'aucun autre musicien ne connaîtra. Mais sa véritable prouesse ne sera pas d'avoir dirigé un orchestre surdimensionné. C'est qu'il a offert au public américain ses meilleures valses, tout en conservant la finesse, l'élégance, l'exaltation des mélodies. C'est cela, l'apport nouveau de Strauss fils, la mélodie, cette harmonie qui demeure dans l'oreille à la première écoute et que l'on peut chanter par après. Le grand Richard Wagner ne s'est pas trompé quand il admirait justement cette grâce qu'il transmettait au tissu mélodique de ses œuvres. Un siècle plus tard, les cinéastes ne se sont pas non plus trompés quand ils ont mis le beau Danube bleu sur certaines de leurs images. Dans des films aussi divers que Le salaire de la peur, Titanic, Les portes du paradis et tant d'autres. Mais ce que chacun de nous garde en mémoire est le beau Danube bleu qui valse dans le cosmos infini, dans le silence intersidéral voulu par Stanley Kubrick dans son 2001, l'Odyssée de l'espace, en 1968.